Radio Kapi. Oh,
Kapi. Le journal Lévin Mwinga, la présentation.
Bonsoir à tous. Au sommaire de cette édition, cette psychose qui trouble les enfants déplacés au camp Lac Vert au Nord Kivu. À la base, les détonations d'armes lourdes qui se font entendre. Les responsables scolaires expriment leur désarroi. Nous irons aussi au sud Kivu où un drame perturbe la population. Il s'agit de deux incendies qui se sont produits dans la commune de Kadutu dans la ville de Bukavu. Bilan 4 morts et des maisons complètement réduites en cendres et des dégâts matériels importants. Le point complet dans ce journal. Un invité dans ce journal, il s'agit de Stéphane Banza, représentant de l'ONG Action pour la protection de la nature et des peuples autochtones du Katanga. Il va nous plonger dans le monde de la restauration des écosystèmes dégradés dans les provinces du Kwango, au Katanga et Lualaba. Voilà pour les titres. Encore une fois, bonsoir. Nous le disions en titre, psychose des enfants déplacés au camp Lac Vert. Cela suite aux détonations d'armes lourdes. Nous sommes là, au Nord Kivu. Les élèves des écoles situées à l'ouest de Goma vivent au rythme de ces détonations qui perturbent leurs cours et affectent leur bien-être psychologique. À l'école primaire Lac Vert, qui accueille également des enfants déplacés, les responsables scolaires se voient parfois contraints de renvoyer les élèves chez eux lorsque les tirs s'intensifient, compromettant ainsi la progression pédagogique. Rosalie Zawadi était dans cette école samedi, suivait son reportage.
Comme vous pouvez l'entendre, les enfants qui étaient dans la cour s'écrient lorsqu'une bombe explose au loin. D'autres se recroquevillent, la peur visible sur leur visage, comme cette petite fille qui se précipite dans sa classe.
Lorsque les bombes tombent, je ne comprends plus ce que l'enseignant dit. Et s'il y a évaluation, je n'arrive pas à répondre. Je pense qu'il y a peut-être des personnes qui viennent de mourir. Je n'arrive pas à bien écrire.
L'enseignant Désiré Soussa, de la 4e année primaire, explique que ces bruits dispersent l'attention des élèves, nécessitant un temps considérable pour les ramener à la concentration sur les cours.
Lorsqu'il y a crépitement des armes lourdes, bon, nous avons difficile d'étudier. Les bombes là nous dérangent, ça gêne les enfants et l'enseignant manque comment évoluer avec la matière. Ces bruits de bombes vraiment sont fréquents. Je peux me solliciter auprès des autorités, de faire tout moyen possible, finir avec la guerre.
Lorsque les tirs ne cessent pas, l'école n'a d'autre choix que de renvoyer les enfants chez eux, espérant un lendemain plus calme, a dit le directeur de cette école. Goma, Rosalie Zawadi, Radio Kapi.
Restons dans cette province où des échanges de tirs d'artillerie opposent à nouveau ce lundi l'armée congolaise et ses alliés aux rebelles du M23 autour de la cité de Kanyabayonga. Selon nos sources à Kanyabayonga, des tirs sporadiques de mortiers sont entendus par intermittence dans la région. Rien que dans la matinée de ce lundi, deux obus sont déjà tombés dans Kanyabayonga. Rappelons que c'est depuis 15 jours que ces affrontements ont été déclenchés dans cette zone. Toutes nos sources notent et confirment que l'armée régulière continue jusqu'ici de contenir les rebelles au-delà de Bibulindi. J'espère que je vais bien prononcer, à un peu plus de 10 km de Kanyabayonga. D'autres détails avec Jean Kassami.
Les incendies se sont produits la même nuit dans deux quartiers populaires différents de la commune de Kadutu, Nyamugo et Nkafu. En Kafu, il y a eu 4 morts et 2 maisons calcinées, tandis qu'à Nyamugo, la société civile de la commune rapporte une cinquantaine de maisons. Hippocrate Maroumé, son président.
Maintenant identifier les responsables de ménage et après l'identification de toutes les familles victimes, qu'on peut avoir vraiment un vrai bilan définitif. La protection civile, elle n'existe que de nom, donc à chaque moment où il y a un incendie, on voit maintenant l'équipe déployer les agents sur le terrain pour ne fût-ce qu'identifier les familles victimes et puis rien d'autre n'est fait par rapport à ce que nous on attend de ces services. La fois passée, l'honorable Batimukwebo avait doté des véhicules anti-incendie aux 3 communes de la ville de Bukavu, y compris la mairie. Et il avait même avancé le paiement de 6 mois de personnel pour qu'en cas d'incendie, ces véhicules puissent servir. Malheureusement, la population continue à souffrir.
Toutes les 4 personnes mortes dans l'incendie sont d'une même famille, la mère et ses 3 enfants. Bukavu, Jean Kassami, Radio Okapi.
En rapport toujours avec ce climat d'insécurité, le gouvernement de la République démocratique du Congo condamne l'attaque des ADF dans les localités de Massala, Mahili et Kémé du territoire de Béni dans la province du Nord Kivu. Selon le communiqué publié ce lundi par le ministre de la Communication et Médias, Patrick Muyaya, 41 personnes ont perdu la vie et 9 autres ont été blessées. Le gouvernement promet la poursuite des opérations de traque de ces rebelles et d'assurer la prise en charge des blessés dans des structures adéquates. Ces opérations de traque ont permis, selon le porte-parole du gouvernement, de neutraliser plusieurs rebelles et de libérer les otages civils. Bonne nouvelle pour les victimes des activités illicites de l'Ouganda en RDC. Le Fonds de réparation d'indemnisation a procédé ce lundi à l'affichage de la liste de la première vague des personnes éligibles à l'indemnisation dans la province orientale. Cet affichage coïncide avec la clôture des manifestations commémoratives du 24e anniversaire de la guerre de six jours. À cette occasion, un culte œcuménique a été organisé ce lundi en la cathédrale Notre-Dame du Très-Saint-Rosaire, comme nous explique Jacques Moukonkolé dans ce reportage.
La clôture des manifestations commémoratives de ce douloureux anniversaire a été marquée d'abord par un culte œcuménique à la cathédrale Notre-Dame du Très-Saint-Rosaire. Ensuite, par une marche jusqu'au cimetière de la guerre des six jours. Ici, un mémorandum a été lu par la professeure Bibiche Saloumou. Plusieurs recommandations y sont contenues pour que ces crimes ne restent pas impunis.
Au président de la République de saisir formellement l'ONU pour demander la création d'un tribunal pénal international afin d'organiser les poursuites à l'endroit des auteurs des crimes commis en RDC.
En marge de cette marche, le FRIVAO a procédé à l'affichage des listes de la première vague des bénéficiaires de l'indemnisation individuelle. Monseigneur François Marabout, son coordonnateur, indique que le processus va se poursuivre.
Ceux qui retrouveront leur nom affiché, ils devront se rendre au niveau des guichets, on oriente les victimes au niveau de l'extension de Raoul Bank qui se trouve du côté de Batam pour ouvrir leur compte. Et à ce moment-là, la banque va nous retourner les numéros de compte des concernés pour nous permettre maintenant de se joindre lors des paiements.
Signalons qu'à cette même occasion, le FRIVAO annonce le début imminent de la construction des mémorials au cimetière de la guerre de six jours. Jacques Moukonkolé, Kisangani, Radio Okapi.
Qu'est-ce qui se passe entre la DGDA et la DEMIAP à la douane de Kassindi dans le territoire de Béni? Un climat de tension règne depuis ce lundi entre l'ex-DEMIAP, service de renseignement militaire, et la direction générale des douanes et accises, DGDA, à Kassindi, Lubiria. C'est une cité frontalière de l'Ouganda située à 90 km de la ville de Béni. À l'origine de la tension, l'arrestation depuis dimanche du responsable de la DGA Kassindi et de son chargé de logistique par le service local de l'ex-DEMIAP. Les agents de la DGDA, appuyés par les membres de l'association congolaise des commissionnaires agréés en douane ACCAD, menace d'aller en grève pour exiger leur libération. Le récit des faits avec André Kitenge.
Des sources locales rapportent que le responsable et le chargé de logistique de la DGDA à Kassindi-Lubiria ont été arrêtés sur ordre du commandant local de l'ex-DEMIAP après avoir refusé d'octroyer à ce service militaire un bureau de travail dans le bâtiment administratif construit avec l'appui de la Banque mondiale et de l'Union européenne. À la DGDA, on juge d'arbitraire cette arrestation et l'on estime que l'ex-DEMIAP ne peut pas cohabiter dans un même bâtiment avec le service douanier. Les personnes arrêtées ont été transférées à Béni où elles sont en détention. Les agents de la DGDA Kassindi, appuyés par les commissionnaires en douane, exigent leur libération et menacent d'aller en grève. Ils dénoncent également ce qu'ils qualifient de tracasserie militaire au poste frontalier de Kassindi-Lubiria. Ils appellent à l'implication des FRDC et du gouvernement congolais pour mettre fin à cette situation. Tous les efforts pour joindre le responsable de l'ex-DEMIAP Kassindi se sont avérés sans succès. André Kitenge, Béni. Radio Okapi.
Triste bilan des inondations dans les villes et territoires de Kalemi, Mobal, Muliro, Manono et tant d'autres. Le cri d'alarme est lancé par l'ONG SOS Tanganyika. Tenez, plus de 179 000 personnes sont sans abri. Leurs habitations ont été envahies par les eaux du lac qui ont occasionné de graves inondations. D'après l'association SOS Tanganyika, qui crie au secours, toutes les infrastructures économiques et sociales de base de la province sont aujourd'hui sous eau. C'est le cas des ports de Kalemie et de Moba, du chemin de fer de la SNCC qui relie Kalemie à Nyunzu, Kabalo et Kongolo. On s'attend hélas à une crise économique profonde dans la province en plus de la crise de l'habitat. Le coordonnateur de SOS Tanganyika plaide pour l'intervention du gouvernement central. Albert Kisimba Lumuimvwe est au micro de Michel Kifindangoy.
Nous sommes en train de faire notre plaidoyer avec tous les sinistrés de cette belle province du Tanganyika qui aujourd'hui compte plus de 179 000 personnes qui sont dehors, qui n'ont pas de quoi vivre, qui ont laissé leurs souvenirs parce que le Tanganyika a récupéré la partie du territoire qui part aujourd'hui, Muliro est inondé, Moba, Kalemie, Manono est inondé. Et personne jusqu'à aujourd'hui ne vient au secours de cette population du Tanganyika qui pleure. C'est toute une vie quand nous avons perdu 30 à 42 morts. Que le gouvernement national prenne en charge cette province qui est en train de se mourir. L'économie du Tanganyika aujourd'hui est partie. Rendez-vous compte que Moba Port, Lumumba sur Kalemie, Lumumba sur Kongolo, la SNCC a perdu son espace vital parce que le rail, il est plein d'eau.
Et puis, ce constat amer à Mbujimayi au Kasaï oriental, c'est la détérioration des infrastructures construites il y a quelques mois seulement dans le chef-lieu du Kasaï oriental, l'Office des voiries et drainages, OVD, qui dénonce ces faits, pointe du doigt certains conducteurs et les accuse d'être à la base de la destruction des trottoirs. L'OVD s'indigne ainsi suite à l'utilisation des caniveaux pour l'évacuation des immondices par certaines familles. Des explications avec Esther Ndalafina.
L'Office des voiries et drainages a fait le constat sur l'avenue Mwanjadi dans la commune de la Kanchi où les trottoirs construits récemment ont été détruits par un camion. Cette pratique est constatée à plusieurs endroits d'après l'OVD. Il s'indigne de voir également que les immondices sont déversés dans plusieurs caniveaux déjà achevés. Jean-Félix Mutombo, chef de service technique à l'OVD Kasaï Oriental.
Les caniveaux sont pour la plupart transformés en dépotoirs publics, donc ce sont des choses qui causer des conséquences sur la route, parce que ça c'est de un. Il y a la partie que nous appelons les trottoirs. Ça c'est fait spécifiquement pour les piétons. Alors quand quelqu'un prend les roues, il met sur les trottoirs, donc c'est déjà un abus.
Contactés, certains chefs de quartier reconnaissent cette pratique qui s'installe de plus en plus sur la ville. Nico Kassanda dit avoir fait plusieurs sensibilisations auprès de ses administrés.
Mais il y a les mamans qui balayent dans les parcelles, ils mettent les immondices dans les canals. Nous leur avons déjà produit des conseils partout. On parlait même avec Mégafo. Les gens ne comprennent presque pas. Il y a toujours la malpropriété partout.
Signalons que certains habitants ont aussi dénoncé la mauvaise utilisation des nouvelles routes par les motocyclistes. Esther Ndalafina, Mbujimayi, Radio Okapi.
Retour à Kinshasa avec cette nouvelle un peu plus gaie. Qui sont les étudiants de l'Université de Kinshasa qui ont eu le privilège d'être primés pour le procès fictif de la Cour pénale internationale? En tout cas, 42 universités de 17 pays francophones ont pris part à ce qu'on peut qualifier comme une épreuve. L'équipe de la RDC, arrivée deuxième, a affronté en finale l'Université Paris-Panthéon. Que retiennent-ils de leur passage? Quel message à leurs camarades étudiants? John Tshibwabwa les a rencontrés. Suivez son reportage.
Ils sont à quatre, Maxime Kitenge, Deborah Sabanga, Shekina Mujinga et Christopher Mpiana. Ils disent être fiers d'avoir redoré l'image de l'enseignement supérieur sur la scène internationale. Pour Christopher Mpiana, ceci est le résultat de beaucoup de préparation.
Toute compétition et celle à laquelle nous avons participé d'une telle envergure demande beaucoup de préparation.
Les choix des candidats dans l'une des facultés le plus peuplées de l'UNIKIN était un dilemme. Maxime Kitenge explique.
Plusieurs personnes étaient dans la course, mais ceux qui ont été retenus, ce sont ceux qui ont rédigé le meilleur mémoire.
Parmi les difficultés rencontrées, le retard dans l'obtention des visas, les logements et les financements. Deborah Sabanga a reçu le prix du meilleur orateur. Elle appelle les étudiants congolais à ne pas se sous-estimer.
Aux étudiants congolais, le message que je peux leur passer, c'est de ne tout simplement pas se sous-estimer. La science, elle est universelle. On lit les mêmes livres, on étudie les mêmes cours, surtout en droit international. C'est le même droit qui est enseigné dans le monde entier.
Pour le professeur Jean-Louis Essambo, doyen de la faculté de droit, c'est un sentiment de satisfaction de voir ses étudiants réaliser une prestation reconnue sur la scène internationale. Ces étudiants ont été élevés au rang des ambassadeurs de l'UNIKIN.
Actualité internationale.
En page internationale, élection en Afrique du Sud, les 400 députés sud-africains élus aux législatives du 29 mai 2024 se réunissent vendredi 14 juin au Cap lors d'une première session à l'Assemblée nationale. Objectif, élire le prochain président du pays. Le président de la Cour constitutionnelle d'Afrique du Sud déclare en vertu de l'article 51 de la Constitution que la première séance de l'Assemblée nationale se tiendra vendredi 14 juin 2024 à 10h, a annoncé ce lundi le ministère de la Justice dans un communiqué. Autre titre, notez que le Conseil de sécurité de l'ONU se prononce lundi 10 juin 2024 sur un projet de résolution américaine soutenant la proposition de trêve à Gaza et appelant le Hamas à accepter, a annoncé la présidente sud-coréenne du Conseil. La dernière version du texte, vue par l'AFP, salue une proposition de trêve annoncée le 31 mai par le président américain Joe Biden et appelle le Hamas à également l'accepter et appelle les deux parties à appliquer pleinement ces termes sans délai et sans condition.
L'invité.
L'invité de ce journal est bien Stéphane Banza. Nous l'avons dit en ouverture de ce journal, il est représentant de l'ONG Action pour la protection de la nature et des peuples autochtones du Katanga. Mais plus intéressant, il va nous plonger dans le monde de la restauration des écosystèmes dégradés dans les provinces du Kwango, au Katanga et Lualaba. Un projet financé entre autres par le Fonds international pour le développement agricole FIDA. Stéphane Banza s'entretient avec Paul Matendo.
Stéphane Banza, bonjour.
Bonjour, monsieur Paul.
Vous venez de participer à ces assises sur la restauration des écosystèmes dégradés dans le Kwango, au Katanga et Lualaba. Qu'est-ce que vous avez retenu de ces travaux?
Ce que j'ai retenu de cet atelier, d'abord on est venu pour apporter les amendements. Les amendements pour enrichir le document qui a été déjà travaillé après les consultations qui ont été organisées dans les provinces respectives. Et les amendements ont été apportés en termes d'indicateurs, en termes d'activités et en termes de certaines stratégies. Ça, ce sont les principaux amendements que nous avons eu à faire pendant les deux jours. Et ce qui a fait que les activités soient menées, des discussions en trois sous-groupes, selon les composantes, parce que le projet réside sur les trois composantes, dont la première, c'est sur la gouvernance, les politiques et la gouvernance forestière. La deuxième composante va parler sur la restauration des écosystèmes. Et là-dedans, ce sont les activités d'identification des sites dégradés. C'est notamment faire de la cartographie de ces sites. C'est aussi toutes les activités liées à la restauration, comme le reboisement, les pratiques agricoles durables. Et la troisième composante, c'est le suivi et évaluation, les bonnes pratiques.
Il est dit que ce projet vise également l'amélioration des conditions de vie de peuples autochtones. Quel est exactement leur intérêt?
Les peuples autochtones, par rapport à ce projet, c'est beaucoup plus lié aux connaissances des pratiques. Vous n'êtes pas sans ignorer, peut-être je vous informe, que ce sont les peuples autochtones qui sont les meilleurs gardiens des forêts. Ils ont beaucoup de techniques et de pratiques que les autres structures doivent apprendre. Je vous donne un exemple. Quand vous arrivez dans un village où il y a les peuples autochtones pygmées et un village habité par les communautés locales, il y a une distinction nette. Laquelle est distinction? Déjà, dans le village, dans le campement des peuples autochtones pygmées, ils vivent avec la forêt. La forêt, c'est pour les peuples autochtones pygmées un lieu de loisirs, un lieu de rites, un lieu sacré. Et parfois, ils disent même dans la forêt qu'il y a leur dieu. C'est la médecine pour les peuples autochtones pygmées. Je vous informe que dans les peuples autochtones, on ne traite pas la sinusite deux, trois jours. C'est en une journée, on finit la sinusite. Donc, on doit apprendre de toutes ces pratiques-là pour que nous puissions bien conserver. Et chez les peuples autochtones pygmées, vous n'allez pas trouver une déforestation comme nous vivons chez les communautés locales. Là, parce que d'abord, ils ne font pas de grands champs. Ils font des petits champs, ne fût-ce que pour la subsistance. Voilà l'intérêt que nous devons accorder à cette catégorie de communautés locales qui se retrouvent dans notre pays. nous, nous avons la technologie appropriée, ensemble avec les peuples autochtones, pour les former en tant que pépiniéristes.
Vous dites que vous avez la technologie appropriée. Est-ce que vous en avez le moyen?
Le moyen, comme on a déjà un projet, c'est déjà le moyen. Parce que le projet prévoit le reboisement. Et le reboisement ne peut jamais se faire sans la mise en place des pépinières. Ça ne suffit pas, mais nous avons besoin que les autres bailleurs qui écoutent ces échos puissent nous soutenir.
Vous rentrez au Katanga, quel est le message que vous apportez aux peuples autochtones?
Nous avons deux messages. Le premier message concerne les communautés locales ayant bénéficié du projet Miombo, dont on a mis en place les CFCL, les concessions forestières des communautés locales. Il y en a 20 qui ont déjà eu leurs arrêtés, c'est ça la loi. Nous disons à ces communautés-là organisées en concession forestière de communautés locales que ce projet qui arrive va prendre aussi beaucoup de points. Là où il y a eu des concessions forestières de communautés locales sans arrêter, je crois que ça sera les activités premières pour que l'autorité puisse signer. Nous allons accompagner les initiatives des forestiers communautaires à avoir effectivement leurs arrêtés. Mais du côté pygmée, ce projet, nous allons l'amener dans leur milieu pour que les communautés autochtones pygmées s'organisent, acceptent aussi dans leur milieu de vie pour recevoir et bénéficier de toutes ces pratiques durables, la connaissance de leur manière de gérer les forêts et aussi implémenter le projet dans leur milieu de vie.
Stéphane Banza, merci.
C'est moi qui te remercie, M. Paul.
Voilà, et c'est la fin de ce journal. Merci Alain Irung, grâce à Mzati et Dieudonné Nyangaza.